France Inter.
Si on me dit, ouais, t'as été pourri sur un rôle et que j'étais pourri sur le rôle, ouais, bah, je me fous. Après, c'est Marco Ferro sur Internet, je m'en fous. Je sais dans quel film je joue comme une merde, je sais dans quel film je joue bien, que je me sens pas légitime de dire qu'est-ce que c'est un bon acteur. Je trouve que ce serait se la raconter de dire, ouais, un bon acteur, c'est ça, tu vois, je connais tout. Mais pour moi, en tout cas, un bon acteur, c'est un mec qui est généreux, qui a le sens de la rupture. Par exemple, j'aimerais vraiment jouer un Shakespeare du classique, je sais que j'y arriverai. C'est pas forcément des trucs par rapport au phrasé et tout ça, parce que le phrasé, je peux le changer, tout ça. Mais ça, c'est trouver le travail pour trouver le déclic.
J'ai arrêté l'école en quatrième quand même. Hélas, j'avais déjà commencé à tourner dans des films. J'avais croqué dans la pomme pendant 3 ans et demi. J'ai rien fait. J'ai raté tous mes castings. J'y allais. Effectivement, moi, c'est le cinéma et c'est le fait qu'il y ait des gens qui ont continué à croire en moi, à me donner des rôles qui ont fait que j'ai réussi.
Autrefois, quand on parlait de certains acteurs, de Gabin à Lanvin, en passant par Ventura ou Belmondo, on disait « il a une gueule ». Pierre Lottin est de cela, et il promène aisément sa belle gueule dans le cinéma français. La casquette à l'envers de rappeur au débit mitraillette dans Les Tuches, gueule de voyou, de paumé, de tolard ou de militaire chez Dominique Moll, François Ozon, gueule de frère tromboniste dans un film qui vous a ému, je le vois à vos messages sur la page Facebook du Grand Atelier, en fanfare d'Emmanuel Courcolle. Même quand il n'a pas le premier rôle, il existe pleinement. Ça s'appelle avoir du talent, mais aussi faire les bons choix. Mercredi, il sera un Polonais un peu voyou dans l'affaire Bojarski de Jean-Paul Salomé. Bonjour Pierre Lottin.
Eh hey, bonjour.
Vous êtes, ça y est, un acteur populaire. Je suis certain que les gens vous parlent dans la rue et vous disent des mots gentils.
Bah, c'est vrai que ça arrive souvent. C'est surtout, bah, je vais pas mentir par rapport aux Tuches, parce que comme on les a fait rire, ils ont envie de nous le rendre un peu par cette gentillesse. Mais j'étais un peu habitué par rapport aux Tuches.
Oui, ça fait déjà une bonne dizaine d'années alors.
Ah, ça fait 15 ans, 5 Tuches.
Votre invité exerce le même métier que vous. Il est franco-britannique, on l'a vu chez Gatliffe, Cogitor, Bonello, Anne Fontaine. Il jouait un prof d'anglais dans Alpha de Julia Ducournau. Il cultive consciemment ou pas un certain mystère, une forme d'énigme. Et comme vous aussi, Pierre Lottin, il peut inquiéter ou faire rire. Je pense à son rôle de comédien zombie dans Coupé de Michel Hazanavicius. Finnegan Oldfield, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que je prononce bien votre prénom, Finnegan?
Finnegan, ouais. Finnegan, c'est bien. Finnegan à la française, Finnegan.
C'est irlandais?
Ouais. Oui, Finnegan, c'est un nom de famille irlandais à la base. C'est un peu comme Dupont en France.
D'accord.
C'est un nom de famille irlandais, mais c'est mon prénom.
Il y a une rue en Angleterre qui s'appelle Finnegan.
Ah ouais?
Il a tourné dedans. C'est un truc qu'il m'avait raconté il y a 15 ans quand on avait fait notre premier court-métrage ensemble.
Bah vous allez nous raconter tout ça, monsieur Lottin et Oldfield. Sur Facebook, il y a Marianne qui nous écrit à l'instant « Quelle belle idée de réunir ce duo d'acteurs aussi singuliers l'un que l'autre. Trop hâte !» dit Marianne. Et bien, c'est parti. Bienvenue dans le Grand Atelier.
France Inter. Le Grand Atelier. Vincent Josse.
Comment vous la trouvez, votre gueule, Pierre Lottin?
Pour l'instant, elle est fatiguée. Parce que j'ai vraiment la tête dans le cul. Mais
parce que vous travaillez trop?
Parce que je travaille trop, donc du coup je me repose en conséquence aussi un petit peu. Mais elle est très contente, ma gueule, parce qu'elle retrouve Finnegan. Et je suis content de le voir.
Vous êtes arrivé en studio en disant « Oh, ça me fait plaisir de te revoir !»
Bah ouais, carrément, on a commencé ensemble. Il m'a fait découvrir le reggae.
Oui.
Bah oui, pareil. Mais là, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu.
Ouais.
Ça fait longtemps.
Vous avez démarré dans un film en commun?
Oui, absolument. Un court-métrage qui s'appelait « Johnny » de Bruno Balloir. D'ailleurs, Bruno, si tu nous entends, grosse bise. Et effectivement, je crois que c'était ton premier cours, non?
Ouais.
Vous sortiez du cours Florent, Pierre Lottin?
Bah, plus ou moins, je sais plus si ça faisait un an ou ça faisait 2 semaines. Mais c'était trop bien, en vrai. Ouais. On avait passé 2 semaines délicieuses.
Belle rencontre.
Ouais.
Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé entre vous et qu'est-ce que vous avez apprécié l'un chez l'autre?
Bah, en fait, on n'était pas encore hétéro à l'époque, donc on a découvert beaucoup de choses. Et du coup, c'était 2 semaines délicieuses.
C'est ça. Non, mais c'était un tournage de court-métrage. Non, mais il y a toujours une ambiance assez géniale sur un court-métrage. On ne sait jamais trop à quelle sauce on va être mangé. Ça peut être génial, comme ça, on peut manger un peu de la soupe.
Ouais, vous en avez tourné beaucoup, vous, Finnegan.
Oui, c'est vrai. Mais j'aime toujours bien. Mais d'ailleurs, là, il y en a un en ce moment qui circule, qui s'appelle Mort d'un acteur avec Philippe Rebaud. J'en profite, hein, je fais ma petite promo.
Oui.
Qui est en lice pour
les Césars.
Pour les Césars, tout à fait, et qui est génial.
C'est Philippe Rebaud qui entend la radio qu'il est mort.
Voilà, en parlant de radio. Et ouais, on a annoncé sa mort, il est pas mort, et il y a des gens qui passent un casting pour jouer son rôle, dont moi. Voilà. Non, je vous conseille de regarder ce film qui est sur France Télé. Non, franchement, le court-métrage, moi, c'est quelque chose que j'adore. C'est un exercice que j'adore. Et puis, je trouve que quand c'est réussi, c'est très réussi. Puis, il faut que ça soit efficace, un court-métrage, pour que ça marche bien. Il y en a tellement dans le monde qu'en fait, un bon court-métrage, je trouve ça assez payant.
On apprend son métier en faisant des courts-métrages, par exemple, Pierre Lotin.
Il y a un truc qui est bien avec les courts-métrages, c'est que ça permet de faire un peu le laboratoire, tester des trucs qu'on pourra moins se permettre en long, parce que c'est pas les mêmes rythmes, en gros, c'est pas les mêmes enjeux. Mais ce qui est cool avec le court-métrage, ouais, c'est que c'est encore, je vais pas dire à échelle humaine, mais c'est encore à échelle humble.
C'est moins le cas après.
Il y a plus de hiérarchie, plus de gens qui font un peu plus chier, mais pas les comédiens forcément, parce qu'ils sont très protégés pendant les tournages, en toute honnêteté.
Ah oui, vous avez des chauffeurs.
Ouais, c'est ça.
On prend soin de vous.
Ouais, c'est ça.
Mastroianni disait d'ailleurs que c'était infantilisant d'être comédien.
Ah ouais.
Bah, il y a un truc un peu, on va dire un peu infantilisant, mais
On vous maquille, on vous donne à manger.
Ouais, on le torche le cul, on le fout les lacets, non, faut abuser non plus.
On vous donne plein d'argent.
Ah, je sens qu'il a posé des questions chiantes. J'ai écouté l'émission hier, c'est un peu intrusif. Franchement, les courts-métrages, c'est cool.
Emmanuel Courcol, avec qui vous avez tourné deux films, dont le célèbre Enfant Phare, désormais célèbre, hein, ça a marché très très bien. Combien d'entrées?
2,2 millions, 2,5 millions, je crois.
C'est fou.
Ouais. Bah, on a eu une bonne promo. Non, je plaisante. Non. Bah, le film est ce qu'il est. Donc, c'est forcément, il est.
Ouais, puis surtout,
c'est un beau film.
Le duo a marché. Laverne et Lotin, ça fonctionne.
Ouais.
Il est bien ce film.
Pourquoi il est bien?
C'est mérité. Écoutez, franchement, moi, j'ai regardé. J'étais curieux de savoir pourquoi est-ce que ça faisait un succès comme ça. Vous savez, on est toujours un petit peu attiré, on essaie de comprendre et tout. Puis il y avait Pierre dedans, donc je voulais voir, ça faisait longtemps. Et j'étais vraiment agréablement surpris, parce qu'on peut toujours avoir ce truc de se dire « Ah, ça marche, mais peut-être qu'en fait c'est de la merde et tout ». Et non, c'est touchant, je trouve ça mortel ce qu'ils apportent les deux, là, effectivement. Ce duo-là, c'est assez magnifique. Et moi, j'avoue, j'ai vu un peu de mon Pierre là-dedans.
Un peu de votre Pierre là-dedans. Moi, j'aimerais bien qu'on écoute un moment de crise entre les deux frères, hein, qui se découvrent à l'âge adulte. Pour caricaturer un peu et parler en termes marxistes, il y a le bourgeois, Laverne, et le prolo, Lotin.
On change de positionnement, Thibault.
Ah oui.
Ça va?
Oui.
Salut.
Ah, salut.
Il se passe, t'as cassé ta voiture?
Non, je m'amuse. Qu'est-ce que tu veux?
Putain. T'as 5 minutes?
Non, j'ai pas 5 minutes.
Bon, tu sais, j'ai appris hein, pour Westbrook. On a tous eu des moments difficiles.
Ah ouais, t'as eu des moments difficiles, toi? Quand?
Je crois que c'est facile de devenir chef d'orchestre?
Quand on s'appelle Thibaut et qu'on a été élevé à Meudon, ouais, c'est plus facile.
Mais allez, ça va, arrête, là, Jimmy. Hein. Moi, ça fait 20 ans que je bosse 15 heures par jour. J'ai pas eu de jeunesse, j'ai pas eu de vie, hein, tu sais? Ce que j'ai aujourd'hui, je le dois à personne, je l'ai gagné, ok?
Gagné, mais qu'est-ce que tu me parles de gagner, toi, putain? Moi, tu sais combien je gagne, moi, dans ma cantine? On se balle de l'heure. Je vis chez ma mère, je vois pas ma fille. Je joue dans une fanfare de merde, et toi, tu me parles de gagner, toi? Et en plus, t'arrives avec ta gueule de premier de la classe, là, tu montes le crâne, genre je peux diriger l'harmonie, je peux monter une école de musique, là, puis quoi encore, le Bolshoï, putain. Mais moi, je t'avais rien demandé, moi, donc lâche-moi.
Je crois qu'il y a un truc que t'as pas compris, c'est que je lâche jamais, moi. Surtout mon frère.
Mais ton frère, putain, je suis pas ton frère, donc t'arrêtes avec ça. On n'a pas été élevés ensemble, on n'a rien en commun. Toi, t'aurais dû être avec nous, ici. Seulement, t'as tiré le bon numéro, tu vois. Et c'est ça, je vois, quand je te regarde, je vois le bon numéro. Maintenant, casse-toi, tu me casses les couilles, putain.
Qu'est-ce que ça vous rappelle, Pierre Lotin? Vous écoutiez très attentivement. Qu'est-ce que vous écoutiez d'ailleurs? Le rythme?
Que je suis quelqu'un de vulgaire. Non, je me disais que c'était pas ma scène préférée. Mais je sais pourquoi, c'est parce que je l'ai faite. Et je savais ce qui bloquait quand je jouais. Il n'y a pas rien à voir avec Courcol, rien à voir avec les partenaires, tout. Non, c'était très bien, mais c'est juste que quand j'entends la scène, en fait, ça me ramène aux petites problématiques que j'avais pendant que j'étais en train de la jouer. C'est marrant parce que je pensais ne pas m'en souvenir. Et en fait, j'ai une super mémoire. Tout va bien.
Et là, vous vous trouvez bon ou mauvais?
70%? Ouais, un petit 70.
Non, parce que je sais que vous êtes doué pour l'autocritique. Et que vous dites, quand je fais de la merde, je le sais.
Ouais.
Et quand je suis bon, je le sais aussi. C'est pour ça que je vous posais la question.
Ouais. Puis, en toute honnêteté, ouais, un petit 70%, 75%, quoi.
C'est pas mal.
Ouais, un peu vert, quoi,
sur le truc. C'est une belle cotation.
Finn Gadolfine, quand vous vous réécoutez, vous, est-ce que vous avez aussi un exercice critique que vous faites?
Oui, je pense. En tout cas, entendre sa voix, en fait, de toute façon, ça trompe pas. Quand vous jouez mal ou quand vous croyez pas à la scène, ça s'entend. Vous savez, quand vous jouez une scène, des fois, moi, ça m'arrive d'aller regarder vaguement derrière le combo. Je le fais pas à chaque fois. Hein.
Alors le combo, c'est le petit, télé qui filme.
Voilà, vu qu'on tourne
en pellicule
et en numérique, vous pouvez après la scène ce que vient de voir le réalisateur. Vous pouvez aller le voir. En fait, vous appuyez sur play et vous pouvez revoir la scène, la prise. Certains réalisateurs vous empêchent de le faire, d'autres en ont rien à foutre. Ça dépend, quoi. Donc, et en fait, quand tu le fais. Que tu y vas, souvent l'assistant caméra qui s'occupe de gérer le combo, pour vous faire plaisir, il met la petite baffle pour que vous entendiez la dernière prise. Et des fois, ça fait très mal parce que t'es en plein tournage, tu te fais oh là 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 là, catastrophe, je joue comme une quiche. Et du coup, c'est à double tranchant. Donc soit tu y vas et tu essaies de corriger le tir, soit tu dis non, non, parce que de toute façon, entre ce que tu fais sur le tournage et le résultat final, avec le montage audio, il y a beaucoup de différences. Oui. Tout ça, c'est un peu du détail, c'est-à-dire que si tu commences à t'accrocher à ça, finalement, tu es un peu dans la technique et je pense que mieux vaut y aller à fond à chaque fois. Et puis
et faire confiance au réalisateur.
Tu fais confiance, ouais. Tu croises les doigts et à la projection, équipe, ça passe ou ça casse.
Pierre Lottin,
moi, je regarde à chaque fois, chaque prise. Chaque prise, chaque truc, tant que je suis pas dans une sorte de lâcher prise où je suis sûr. Après, il y a plein de méthodes et tout, mais quand je sais que c'est bon, j'ai pas besoin de voir, parce qu'après, comme il dit Finnegan, on n'est plus vraiment dans la technique. Avant, c'est un peu dans le calibrage. J'essaie de calibrer pour essayer d'atteindre un truc. C'est un peu comme si, je sais pas, on compose un truc un peu au piano, comme ça, on a un truc en tête, et que tant qu'on n'a pas réussi à sortir cette, on va dire cette, c'est pas ça le mot, mais cette couleur un peu, quoi, je lâche pas et je regarde le combo, ce qui va, ce qui va pas.
Mais ouais. Les réalisateurs vous laissent faire?
Ouais, ouais. Il y a des réalisateurs que je sais que ça peut un peu déranger, je leur en parle, parce que j'ai pas envie de les mettre mal à l'aise par rapport à ça, que je m'en fous de ce qu'ils me disent, tout ça, donc voilà, faut rester dans le respect. Mais je regarde à chaque fois tant que je suis pas un peu dans un lâcher-prise, quoi. En revanche, moi, au bout d'un moment, j'étais beaucoup sur la voix, et je me suis rendu compte qu'en fait, la voix se peaufinait, mais pas le reste. Et en fait, c'est un peu une fonction affine qu'il faut faire par rapport à ça, quoi. C'est vraiment deux courbes qui doivent se croiser par rapport à, putain, je sors des maths, je sais même pas ce que c'est.
Alors moi, je vous ai trouvé très bon dans la scène qu'on vient d'écouter. J'ai été frappé par la force de votre voix, qui justement était juste.
Ouais, non, ça va.
70%.
70.
J'aurais dit 72.
Ben, en fait, j'allais rectifier, ouais, 72, parce qu'en fait, ça va. Ça va.
Vous voulez pas nous jouer un peu de piano?
Ouais, si vous voulez.
On a fait venir avec l'équipe un piano rien que pour vous, et je sais que c'est pas trop vous demandez que d'aller vers un piano.
Non, ouais.
Benjamin Laverne dit de vous, et Dieu sait si vous aime bien, il dit quand Pierre arrive dans une pièce et qu'il voit un piano, il dit même pas bonjour.
Là, bah justement, je me suis efforcé de le dire, parce que ça se fait pas.
Mais vous aviez qu'une envie, c'était de jouer.
Ouais, un peu, ouais, ouais.
Est-ce qu'il faut que je vous donne un thème?
Non, c'est
non. Bon. Vous avez même un micro devant vous, vous pouvez nous parler.
Parce que là, je
pourquoi vous avez la main pétée, Pierre Lottin?
Ah, parce que je me suis pris un mur en jouant au rugby avec des potes dans un couloir.
Eh bien, merci d'avoir joué pour nous, comme ça, dans le grand atelier. Mm. Vous apprenez le piano dans votre vie de jeune Pierre, ou ça vient d'un seul coup?
Ouais, non, c'est ma mère qui m'a mis au piano, ouais. Ouais, quand j'avais 5 ans. Ouais, au début avec des cours, après les profs en ont eu marre, donc j'ai fait tout seul après, quoi.
Vous étiez 9, hein, enfant?
Ouais.
Pourquoi Pierre a-t-il dû faire du piano à 5 ans, alors?
Bon, parce que ma mère voulait que je fasse du piano. c'est ce qui m'a permis de me dire qu'à l'école, comme j'étais une merde, j'étais bon à quelque chose quand même, quoi. Mmh.
Est-ce que vous avez un instrument qui est une passion, vous, Finnegan Oldfield?
Hélas, pas vraiment, hein. Pas vraiment. Je voulais commencer à faire du saxophone quand j'avais 14 ans, puis je me suis dit non, c'est trop tard. Aujourd'hui, j'en ai 35, je suis encore en train de me dire que c'est trop tard. Faudrait peut-être que je commence la semaine prochaine. J'ai commencé la guitare à 14 ans, et je me suis dit que c'était trop tard pour commencer à jouer de la guitare, que je serais jamais Jimi Hendrix ou Kurt Cobain. Donc j'ai arrêté.
Parce que la musique, ouais, est là aussi dans les gènes familiaux.
Oui, oui, absolument. Par contre, j'écoute énormément de musique. J'en écoute tout le temps. Oui, oui.
Et vous avez fait découvrir le reggae à Pierre Lottin?
Ouais.
Tiens, on va voir si vous êtes bon.
Ouais.
Aïe, aïe, aïe.
Vous allez me dire ce que c'est, là, ce qu'on écoute.
Ghost Town, Specials.
Wow, Specials Ghost Town.
Ça, c'est très, très bon, ça.
Et plus rapide que moi, c'est lui.
C'est le maître.
Ouais.
Et le vrai maître, c'est votre père, Finnegan.
Oui, 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 mon père qui bossait en Jamaïque et qui a créé un des premiers sound systems à Paris dans les années 90 qui s'appelait King Dragon Sound System, pardon, avec Lord Zelko. Ouais, ouais, et puis il m'a filé toute sa collection de vinyle. J'ai une collection assez ouf de Studio One qui va des années 60 aux années 90 et j'adore ça.
Est-ce que cette science, entre guillemets, de la musique que vous avez tous les deux différemment, elle vous sert aussi dans votre métier de comédien?
Ouais.
Notamment, vous jouez du piano, Pierre. Pour jouer, est-ce que ça rejoint un peu l'interprète que vous êtes devant une caméra?
Ouais.
Est aussi un peu l'interprète au piano, enfin quelque chose comme ça.
Ouais, carrément. Ouais. En fait, c'est ce truc de sonorité juste. Pour moi, il n'y en a qu'une seule qui marche bon, de plein de manières différentes, dans plein de styles différents, mais c'est que d'une seule manière, en gros, que ça fonctionne. C'est quand il n'y a pas photo, quand ça... Voilà. Et le rythme aussi, ouais.
Pierre Lottin, c'est vrai que vous avez composé la musique d'un film dans lequel vous tournez?
Alors, j'ai composé la musique d'un film avec Fred Avril. Et c'est un film qui s'appelle Ceux qui comptent avec Sandunky Berlin. Et c'est Jean-Baptiste Ionity qui réalise.
Il sort le 15 avril.
Ouais. Et du coup, on a composé un peu la musique ensemble.
Alors ça devait être merveilleux comme expérience, c'est nouveau ça?
C'était très enrichissant.
Vous restez discret, pourquoi?
Je sais pas.
Il y a une forme de pudeur.
Ouais, on va dire ça.
Vous savez ce qu'elle dit de vous, Sandrine Kiberlin? C'est un grand sensible, Pierre Lottin.
Ouais, de toute façon, si on fait ce métier sans être sensible... Pff.
Ça vous dit d'écouter un peu de rap?
Oui.
Est-ce que ça fait partie de votre playlist, le rap?
Le rap, oui, à fond, aussi.
Ouais.
Par exemple, Little Sims?
Ah, je connais pas.
La britannique?
Ah merde, je connais pas, je suis désolé.
Eh ben là, voilà, dans le grand atelier de Pierre Lottin, c'est
pour... J'arrête d'écouter du reggae.
C'était pour ça aussi, France Inter.
Creeping in my window. I get a hot flash whenever the wind blows. Nothing to my name now when everybody knows. When I'm in need of cash, I go down to the bingo. Last night I asked Jenny for a quid. This is the fifth time I'm used to taking the piss. A bottle of Rio and some chicken and chips in my fuck me up pumps and my winehouse quiff.
We love you, Amy.
Who's that knocking at the front door? Bills, please, no more. I'm 20-something young with my priorities straight. Yeah. I need to buy a booze and I need to buy a draw. This summer, I'm going out every night. Yeah. Anyone can get it, I ain't scared of a fight. You can be down or be on the other side. True. But this is my idea of the perfect life. Listen, yeah. But taught myself to fire when I needed ammunition.
That's right.
I taught myself to sing and I taught myself to shout. La, la. I taught myself how to get by and go without.
Easy.
I taught myself to make a proper English breakfast.
That's
'cause
right.
I'm a little teapot, short and stout.
I am.
I'm that girl all alone in the crowd.
That's me.
'Cause all of yous are followers and do it for the clout.
Yeah, yeah.
I can't afford to be what everybody's on. The only way I can afford is if you do a discount.
Give me a bargain.
I'll probably be overseas. I speak a lot of French. Wee, wee, wee. Maybe just a hater, 'cause my future's bright. And this is my idea of the perfect life.
Pierre Lottin, Finnegan Oldfield, ça vous dirait de jouer des musiciens? Vous l'avez fait dans Fanfare, Pierre Lottin. Ouais. Mais peut-être, pourquoi pas le rôle d'un chef d'orchestre ou d'un pianiste concertiste?
Ouais, je peux pas. Parce que...
Est-ce que vous êtes blessé à la main?
Je suis en train de me gratter.
Oui, je vois.
Non, carrément. Je vous avoue, j'ai un peu une idée en tête, une idée de film sur un compositeur un peu fripouille, un peu débrouillard dans les années 10.
On vous l'a proposé?
Non, c'est un truc que j'ai envie d'écrire.
Oui? Ça vous prend de plus en plus l'envie d'écrire, là?
Ouais, clairement.
Parce qu'on ne vous propose pas assez de rôles qui vous conviennent?
Non, on propose beaucoup de rôles qui conviennent, mais au bout d'un moment, on a envie d'exploiter ses idées, quoi.
Et vous en avez beaucoup?
Ouais, j'ai quelques trucs. Avec ma femme aussi, on écrit. Et au bout d'un moment, ouais, ça devient un besoin un peu. On a envie un peu de jouer les persos qu'il y a dans notre tête, dans l'univers qu'il y a dans notre monde, un peu, quoi.
D'autant que votre femme... C'est
ce que j'aime dire.
Votre femme fait du stand-up?
Non, elle est comédienne. Elle a fait un peu aussi de stand-up. D'ailleurs, c'est un peu une tueuse de salle, je vous avoue. Ouais, elle a fait beaucoup de stand-up, mais elle fait aussi pas mal de théâtre. Et puis là, elle se met dans le cinéma, quoi. D'ailleurs, elle est dans un nom aussi.
On va dire son nom, hein.
Ouais, Mélissa Izquierdo.
Mélissa Izquierdo. Vous avez fait aussi, vous, un stand-up, non?
Oh ouais, mais non, mais c'est pas...
L'Autin Chaud?
Ouais, L'Autin Chaud. Fallait le nommer par quelque chose, quoi.
Mais, vous avez honte?
Pas honte! Mais c'était il y a longtemps, vous savez.
Non, mais ça doit être une bonne école, non?
Enfin, c'est très flippant. C'est un truc flippant. De fou. C'est un tout le stand-up, c'est médecine. Hein.
Ah ouais?
Ah, c'est un délire. Hein, c'est...
Parce qu'il faut emporter la salle tout de suite.
Parce que vous êtes tout seul. Vous êtes tout seul contre tout le monde. C'est c'est seul contre tous.
Pas de
et encore, moi, j'avais pas vraiment commencé. Je vois comment c'est le stand-up, c'est rude. Hein.
Et en voyant son talent, vous êtes tombé amoureux de votre femme.
Bah franchement, ouais.
Ouais.
En vrai, c'est son talent qui m'a...
C'est lui.
...attiré. Et après, bon, c'est la personne la plus merveilleuse du monde, donc ça aide.
Oh.
Mais au début, ouais, j'étais un peu impressionné quand même.
Finnegan Oldfield et Pierre Lottin, vous avez un autre point commun que la musique, c'est que vous avez été malheureux à l'école tous les deux. Finnegan, vous êtes parti très vite.
De
la scolarité, de l'école.
Oui, absolument. J'ai arrêté en quatrième.
14 ans.
14 ans, ouais. Bah après, du coup, je suis allé dans une espèce de... Enfin, j'ai arrêté l'école traditionnelle. Je suis allé dans des structures pour les adolescents un petit peu en galère.
Les écoles hors contrat.
Oui, des espèces d'écoles hors contrat.
Vous avez connu Pierre Lottin?
Oui.
Ah oui, parce que vous aussi, vers 15 ans, c'est fini l'école traditionnelle.
Faut avoir 11 ans. Ah non, officiellement, ouais, je pense 15 ans.
Ouais. Qu'est-ce qui n'allait pas à l'école?
Bah l'école. Ouais, l'école en soi, c'est rester le cul posé sur une chaise 14 ans de sa vie pour finalement avoir une débouchée qui est un peu similaire. Parce que c'est un peu ce qu'on nous propose, quoi.
Faut rentrer dans le moule, hein. C'est vrai que ce qu'on vous décrit, ce qu'on vous propose, faut s'y accrocher. Et puis un espèce de truc, pour moi, c'est un tunnel, en fait, l'école.
Ouais.
Enfin, moi, j'avoue, quand je suis arrivé au collège, j'étais à Alain Boucher, qu'on m'a dit, tu sais, il y a des gens qui sont en seconde. Moi, j'étais qu'au collège. Il y a des gens en seconde, ils doivent faire 4 heures de devoirs par jour pour finalement peut-être aboutir à quelque chose. Enfin, pour moi, c'était un cauchemar. Je me disais, mais pourquoi tout le monde fait ça? Pourquoi tout le monde reste assis ici à écouter? Et il y a beaucoup de choses que je regrette, hein. J'aurais adoré continuer l'école pour beaucoup de choses, pour beaucoup de raisons. Il y a une vie sociale. De toute façon, quand on quitte l'école, après, on se retrouve hyper isolé. Je conseille pas du tout d'arrêter l'école.
Ça a été des années difficiles, vos 15-16 ans, justement?
Bah, c'est pas facile quand on est...
Cette rupture?
C'est pas évident.
Non. Du coup, on foutait un peu le bordel. Voilà. Moi, c'était là où j'ai fait mes premières armes un peu de comédien, quoi. Parce que sinon, j'étais pas bon à l'école, donc il fallait que je sois bon dans quelque chose. Enfin, il y avait le piano qui m'aidait un peu à me dire que j'étais pas une merde. Mais
avoir quelque chose, ouais.
Mais vos parents étaient inquiets?
Bah, ouais, j'ai décroché l'école à, je sais pas, à ma deuxième, sixième, je sais plus. On est dans l'après, quoi.
Mais comment il vous attrape le théâtre?
C'est mon père qui m'a mis dedans. Il m'a dit, ouais, t'es mon qu'un truc, c'est faire le con, tu en faire ton métier. Et je suis, bah, mais bon, moi, je vais faire l'armée et tout, parce que de toute façon, hein. Et après, j'ai fait les conférences, tout ça, et puis.
Et c'était parti?
Ouais.
Alors que Finnegan...
J'ai eu la chance qu'il puisse me payer les conférences.
Oui. Ouais. Finnegan, lui, a tourné à 14 ans.
Oui, bah.
Gérard Mordillat.
Foiré.
Ouais,
il a fait tourner.
C'est là où j'ai eu de la chance aussi. J'ai eu beaucoup de chance de connaître ça un peu. Tu parles du piano depuis tout à l'heure, Pierre. Quelque chose qui te restait en tête, de dire en fait, j'ai quelque chose pour moi. Bah moi, effectivement, il y avait le cinéma. J'avais déjà connu les tournages, donc c'est clair que dans ma tête, moi, c'est ça que je voulais faire. Oui. J'avais déjà été rôle principal d'un téléfilm pour Gérard Mordillat, que j'embrasse également.
C'était L'île Atlantique.
L'île Atlantique, oui, de Gérard Mordillat. Mais non, j'avais connu, et puis même j'avais vu ce que c'était que ce métier de fou, le cinéma, les techniciens, tout, le son, la lumière, la table régie. Non, mais j'étais comme un fou, et surtout je me suis fait la promesse, après je me suis dit, si t'arrives pas à être comédien, fais un métier dans le cinéma, n'importe lequel. Après, ça veut pas dire que j'aurais été bon pour ça, parce que chaque poste est difficile, mais c'est un monde formidable, d'ailleurs que je recommande à beaucoup de gens qui se cherchent un petit peu professionnellement, parce qu'il y a tellement de boulot et tellement de... Je sais pas, voilà, je parle de la lumière, du son, mais en fait, j'ai l'impression que tu peux trouver vraiment la corde à ton arc.
Vous confirmez, Pierre?
Ah ouais, il y en a pour tout, même de tout, la compta, ça va de la compta, la cuisine, c'est un porte-à-vue, ouais. Un plateau de tournage.
Quoi. Oui, ouais. Mais il y a beaucoup de gens qui veulent être comédiens, qui rêvent d'être comédiens.
Ouais, moi aussi j'aimerais être
un bon comédien.
Ouais, un bon comédien. Non, c'est vrai.
Je voudrais vous faire écouter quelqu'un, je sais que vous l'aimez particulièrement, peut-être en tout premier, Pierre Lottin, c'est
qui est-ce?
C'est Albert Dupontel, un comédien et cinéaste. Je sais que vous allez nous raconter pourquoi vous l'aimez à ce point, mais il a un peu votre parcours, Albert Dupontel.
Il faut beaucoup d'imagination pour vivre. Et on oublie ça à l'école, on nous apprend très vite à participer au récit collectif. Mais ce qui vous préoccupe toute la vie, c'est l'aventure intérieure qui te préoccupe. Je comprends que vous êtes chez le psy, mais moi, c'était pas ma culture, alors sinon j'étais super. J'ai tout connu au cinéma, j'ai connu le sexe, j'ai connu la guerre, j'ai connu l'amour, j'ai connu la mort, tout connu au cinéma. C'est pas pour pas cher, ou même gratuitement, quand on carotte les entrées, ce que je faisais, t'as toute la vie qui défile et tu fais ton petit choix personnel, voilà. Et puis quand un jour tu poses la porte d'un cours, bah t'es bien, quoi. Tu dis, bah je vais pouvoir raconter moi aussi. En fait, j'ai le droit, voilà. Quand je suis monté sur scène, mes défauts devenaient des qualités, c'est magique quand même. Toute une scolarité pourrie avec marqué tout le temps indiscipline, machin, virer de l'école. On te dit, c'est bien, continue, c'est ça qu'on veut justement. Ah, attends, c'est formidable quoi.
Alors, bon, après il a fait médecine un peu. Ouais, je sais pas comment dire ça, mais Dupontel, ça, c'est un gars qui a estampillé ça. Qui a estampillé un peu son époque, un peu. C'est, j'ai tellement de trucs à dire sur ce gars, j'ai tellement d'admiration.
Vous avez le temps, hein, j'ai envie d'entendre pourquoi Pierre Lottin et Albert Dupontel et peut-être ce qu'il a pris de lui.
Non, je vais commencer en disant les trucs normaux. C'est que c'est un gars qui a un truc un peu anglo-saxon, que j'aime énormément, qui est d'une efficacité sans nom, quoi. Ouais, je sais pas, c'est un mec qui m'a marqué dans mon adolescence et qui m'a aidé à me construire en tant que comédien, et puis de certains aspects en tant que personne. C'est des personnes aussi qui rassurent parce qu'ils font partie un peu du même... En tout cas, on y voyait des similitudes, comme des mecs comme, je sais pas, Jim Carrey ou...
Mais c'est important d'avoir des modèles au départ qu'on imite plus ou moins bien ou qu'on imite un peu et puis on se trouve progressivement, ça se passe comme ça.
Ouais. Il y avait Belmondo qui disait un truc, qui disait que on prend à plein d'acteurs avant de devenir le sien. Et ouais, il y avait quelques trucs que j'avais pris de Dupontel, des énergies aussi quoi, parce que si ça s'embriquait avec la mienne aussi un petit peu quoi.
Vous jouiez ces sketchs peut-être.
Ouais, très mal, c'était un peu la honte. Mais
c'est comment l'élève qui passe le bac?
Ah non. Ah bon, il est mort?
Mais Sartre, il est mort et on m'a rien dit.
Mais même ces sketchs. Moi, la première fois, c'était vraiment le sketch de Rambo. C'est mon père qui a montré ça. J'ai fait, oh putain, voilà ça, c'est ça.
Je peux faire ça. Quels étaient vos modèles, vous, Finnegan, Oldfield?
Bah ouais, Jim Carrey, oui, d'office. D'ailleurs, j'avais vu un peu de Jim Carrey en Lottin quand j'ai rencontré. J'avais beaucoup aimé. Non, sinon, franchement, mais j'avoue, j'ai grandi avec les Monty Python, donc je pense que j'aime l'humour absurde.
Je rappelle que vous êtes franco-britannique, que votre père est anglais.
C'est ça, et je suis anglais aussi, du coup, maintenant. Mais les Monty Python, d'ailleurs, j'ai essayé de jouer aussi, pareil, des sketchs des Monty Python, très très durs, très très difficiles, très durs en français et tout. J'aime beaucoup le cinéma britannique des années 80. Gary Oldman, c'est un de mes amis. Préféré dans les films de Alan Clark, c'est un réalisateur anglais qui a fait émerger Tim Ross, le premier téléfilm de Tim Ross.
Ah, This is England, non?
Made in Britain. Made in Britain. Il était incroyable. Mais sinon, Titanic, Leonardo DiCaprio et Kate Winslet.
Ah oui.
Ouais, deux grands idoles.
Ouais, c'est bien aussi.
C'est génial. J'ai revu il n'y a pas longtemps, c'est bien.
Piano.
Ils sont jeunes, en fait. Quand tu regardes Titanic, c'est un peu. Ils sont jeunes, ils ont 17 piges, en fait, dedans.
Jim Carrey, qui nous fait rire, qui joue évidemment très bien, que vous avez vu dans The Mask, que vous avez vu et applaudi dans The Truman Show, qui est incroyable,
très bien,
qui n'a pas pris une ride d'ailleurs ce film, je trouve.
Le scénario, il est exceptionnel. C'est très difficile, hein. T'en trouves pas deux des Truman Show. J'en ai cherché des scénarios aussi fous que ça. Il y a, comment il s'appelle, Dans la peau de John Malkovich.
Ouais,
c'est très bien ça. Ouais. Mais tu vois, des scénarios qui t'emmènent dans une dimension ultra parallèle comme ça, franchement, Truman Show, c'est grand. Hein.
Et Jim Carrey, il a traversé une longue période de dépression. Il en parlait il n'y a pas si longtemps.
I don't exist.
Je n'existe pas. Ce sont tous des personnages que j'ai joués, y compris Jim Carrey, Joel Berish. Ce sont tous des personnages. Jim Carrey était le personnage le moins intentionnel d'entre eux, car je pensais que je construisais un personnage, que les gens aimaient bien, mais c'était un personnage. Je jouais le mec qui s'en fout de tout, et en me regardant, les spectateurs penseraient que rien ne les atteindrait. À un certain moment, les gens parlent de la dépression. Et la dépression, c'est différent de la tristesse. La tristesse, c'est quelque chose qui t'arrive, de la peine. La dépression, c'est quelque chose qui arrive à ton corps et qui te dit « je ne veux plus jouer ce personnage
». Alors il ajoutait aussi « quand j'essayais de remonter les parois, je n'avançais pas, j'ai dû réapprendre à m'aimer, à me respecter, j'étais en train de me consumer de l'intérieur ». Est-ce que vous craignez un peu que ce métier puisse vous abîmer, Pierre Lottin ?
Non, parce que... avec tout ce qui s'est passé avant et tous les acteurs qui ont pété des câbles, on s'est un peu... comment faire un peu différemment. On y passe quand même parce que c'est un métier qui rend dingue, parce que... bon, parce que c'est comme ça, hein, parce que au bout d'un moment, il se passe rien, et le lendemain, il y a tout le monde qui vous regarde dans la rue, donc il y a une espèce de... je sais pas, un tissu social... Enfin, pas un tissu social, mais en fait, c'est comme... J'ai fait une image un peu là-dessus. C'est pas très concret ce que je vais faire, mais en fait, c'est comme s'il y avait un espèce de tissu, on met son doigt comme ça dedans, ça fait un espèce de trou. Et en fait, nous, on est au milieu de ce trou. Il y a un peu un truc comme ça, parfois.
Et vous dites souvent, soit on travaille comme des fous et on devient fou, et soit quand on ne travaille pas, on est chiant.
Ouais, il y a un peu de ça. Ouais, c'est un peu de ça, il y a un peu de ça. Et puis c'est un métier qui est très contradictoire, parce que c'est très privilégié. Très bien de faire ce métier, tout ça, c'est la belle vie, mais... quand je pourrais dire, il y a plein de contradictions psychologiques, sociales, au rapport aux autres, rapport à soi, qui est un peu compliqué, ce qui amène à ce genre du discours de la part de Jim Carrey, qui dit qu'il est même pas lui-même, qu'il est la somme de ses personnages. Si on arrive à avoir son identité, qu'on a réussi à pas trop se fabriquer par rapport à ce milieu, ça va. Faut toujours garder une part de recul.
Et comment on fait?
Eh ben, il faut avoir eu un peu une vie avant, et puis une vie pendant,
et être entouré.
Être entouré.
Finnegan Oldfield, comment on évite de péter un câble dans le métier du cinéma quand on commence à être connu?
Ce qui est sûr, c'est qu'on parlait du tournage tout à l'heure, de la bulle que c'est, du privilège que c'est, de la manière dont on s'occupe de nous. En fait, c'est vrai que c'est d'une intensité, un tournage, et puis je pense à différents postes, c'est tellement intense, surtout quand vous êtes sur un gros projet, que ça dure longtemps, que ça dure des semaines, vous êtes loin de chez vous. En fait, bah déjà, on va vous filmer avec une caméra, et là, vous allez pouvoir pleurer, et là, vous allez pouvoir rigoler, et là, vous allez pouvoir vous foutre en pétard, lâcher tout ce que vous avez à l'intérieur de vous, et ça sera payant. Parce que ça servira, si c'est bien fait, ça servira au film, ça servira au réalisateur. Donc, en fait, on vous écoute, on vous donne la parole. En tant qu'acteur, c'est assez divin. En tout cas, effectivement, il y a un espèce d'effet où après, quand on rentre chez soi, ça peut sembler très vide. Les gens sont moins attentionnés que ça avec vous. Il y a pas longtemps, j'ai vu un film Des mineurs avec Jérémy Renner. Ça m'a fait penser au métier. C'est marrant, ça m'a fait penser au métier d'acteur. Parce qu'en fait, c'est un gars qui passe tout le film à essayer de déminer des bombes en Irak. C'est extrêmement dangereux. Il est à deux doigts de mourir. Je vais un spoiler, mais moi, si je vais le spoiler, j'en suis navré. Mais en tout cas, il risque sa vie tout au long du film. Il est en Irak, c'est ultra difficile. Le film est super. Il voit des horreurs et tout. C'est d'une intensité pas possible. Et à un moment, il a la chance de rentrer chez lui et il va faire ses courses. Et on sent le vide, le vertige, le fait que d'un seul coup, il n'y a plus rien. Et je ne vous dis pas complètement ce qu'il va faire derrière, mais ouais, c'est marrant que tu te sois dit la même chose.
Comme il dit Finnegan, on est habitué à cette intensité, et après, quand on revient, on a l'impression de revenir dans le... C'est pas le civil, c'est pas ça, mais dans quelque chose... Le problème d'un tournage, c'est la vie x10. Donc quand on revient à l'échelle humaine, en fait, c'est vrai que ça fait un peu un vide.
Vous en parlez un peu comme d'une drogue?
Ouais, un besoin, une nécessité, un petit peu... Ouais. Après une drogue, je sais pas, est-ce que vous devez...
La vie x10.
Ouais.
Plus intense, quoi.
Un peu, ouais.
Moi, je suis content de rentrer chez moi, hein, quand même. Mais je parle de cette espèce de sentiment, ouais, où d'un seul coup, bah, c'est vrai que tu rentres à la maison, tu te mets à chialer, c'est pas pareil que devant une caméra, quoi. Tu fais chier tout le monde.
On va écouter Miel de montagne dans le grand atelier de Pierre Lottin sur France Inter.
Tes cheveux qui dansent
Foutu.
Mais non, on n'est pas foutu, les amis. Pierre Lotin, Finger Lotfield. Dans les années 60, un homme d'origine polonaise est arrêté pour avoir contrefait des billets de banque. Mmh. Il est tellement doué que le journal Le Parisien le surnomme le Cézanne de la fausse monnaie. Comment s'appelle-t-il, Pierre Lotin ?
Brujarski.
Oui. Vous faites bien l'accent polonais. D'ailleurs, je l'ai vu dans le film, puisque vous êtes un ami.
Là, c'était une petite blague. En vrai, je sais le faire. Hein. En vrai,
Vous savez bien le faire.
Ouais.
Ben oui, puisque dans le film, vous jouez le meilleur ami de ce Bojarski.
Yann Bojarski. Pour la petite histoire, les faux billets valent plus cher que les vrais de l'époque. Le mec était tellement fort qu'il mettait faut pas que je spoil le film, mais il mettait des petites signatures, des micro-signatures pour un peu signer son œuvre un peu. Quoi.
Oui, le Cézanne de la fausse monnaie,
ah, hein.
C'était son surnom, c'est magnifique. Ouais. Tellement il était doué, et puis ça a duré longtemps, et un jour la police l'arrête. Écoutez cette archive du 21 janvier 1964. Le patron de la Sûreté Nationale et le commissaire Benamois, chef de la répression du faux monnayage, donnent une conférence de presse, et France Inter est là ce jour-là.
Ce sont les laboratoires de la Banque de France qui, il y a quelques mois, ont détecté, au cours des contrôles systématiques auxquels ils procèdent, un faux billet, une fausse coupure de 100 nouveaux francs du type Bonaparte. Et c'est à la suite de cette découverte que nous avons été saisis par la banque, et M. Benamou a été chargé de l'enquête, et il vient d'aboutir par l'arrestation du faussaire et des émetteurs après une enquête qui a été remarquablement bien menée.
Vous vous attendiez à voir un homme très dangereux ?
Oui, nous avons pris des précautions pour éviter une éventuelle fusillade et pour éviter... nous avons d'ailleurs trouvé un pistolet chargé chez lui.
Eh bien, Jean-Paul Salomé nous raconte cette histoire, Pierre Lotin, l'histoire de cet homme qui est très doué, de cet ingénieur polonais qui arrive en France et qui propose des inventions à diverses personnes qui ne les acceptent pas, sans doute parce qu'il est étranger.
Ben, en fait, c'est son nom qui faisait un peu barrage. C'est-à-dire que quand il proposait des inventions, comme par exemple le stylo Bic, le fait que il soit polonais, ça les faisait chier parce qu'il y avait ils aimaient pas trop les Polonais à l'époque. Et du coup, c'est pour ça qu'il s'est tourné vers le banditisme,
Il se tourne vers le banditisme.
Un peu dégoûté par les voies légales.
Moi, je trouve que le film est très beau parce que il suit la personne de Bojarski plus que le fait divers en soi de ce faussaire. C'est pourquoi il fait ça, comment il le cache à sa femme pendant des années et quelle revanche il a envie de prendre justement sur cette France qui ne l'accepte pas vraiment. C'est très beau, très fin tout ça.
Ouais.
Vous apprenez quand vous êtes sur les tournages, vous sentez qu'avec vos partenaires, qu'avec les metteurs en scène et vos discussions, vous apprenez des choses tous les deux ?
Je sais pas, mais dans ces émissions, j'apprends beaucoup de choses. Quand sur les sujets un peu historiques, ouais. Comme j'ai fait pas mal de films sur la guerre d'Algérie, par exemple, je me suis beaucoup renseigné. Ça m'aide à comprendre l'histoire. Et on peut apprendre aussi des métiers. J'ai appris un peu à naviguer.
Parce que quand on quitte l'école à 14 ans, par exemple, on a besoin d'apprendre ensuite.
Oui, non, bah, de toute façon, clairement,
très
clairement, un tournage, un rôle, ça vous plonge au cœur de quelque chose que vous ne connaissiez pas et que vous auriez pu ne jamais rencontrer. Je sais pas, vous faites un film sur l'agriculture, d'un seul coup, tu te retrouves des semaines dans une ferme, puis t'apprends, tu comprends, tu parles et tout. Non, c'est exceptionnel.
C'était quoi le rôle d'ingénieur que vous avez joué il y a pas si longtemps?
C'était, pour un film de Lucie Prost qui s'appelle Fario, avec Megan Northam. Oui, effectivement, je jouais un ingénieur, mais c'était pas le cœur du sujet. Bah, pour le coup, c'était plutôt la dépression et un mec qui prend trop de drogue. Enfin, non, pas qui prend trop de drogue, mais un gars qui est en dépression et qui sait pas trop pourquoi, sur le déni un peu, qui habite à Berlin et puis qui va se retrouver à revenir dans sa petite ville natale. Et en fait, il va être confronté à ce qui le met réellement en dépression.
À ses anciens amis aussi.
Ses anciens amis, tout ce qu'il a enfoui, tout ce qu'il essaie d'oublier en prenant du LSD à Berlin.
Et puis concrètement, il découvre aussi un scandale écologique. Hein.
Et il découvre un scandale écologique. Ouais, il est super ce film, franchement.
Il est formidable, ouais. Oui. Ce sont les truites qui sont en train de changer.
Oui, les truites sont en train de muter.
À cause de métaux déversés dans la rivière.
Ouais, sur la génotoxicité, je m'étais intéressé à ça.
Vous voyez que vous avez du vocabulaire, Pierre Lotin.
On y est.
Ouais.
Génotoxicité.
C'est tout ou rien.
On écoute un extrait.
S'il vous plaît. Hein,
quand personne ne vous croit qu'il y a un scandale écologique.
Moi, je ne l'ai jamais vu, ce tuyau.
Moi non plus. Bon, par contre, Léo, des trucs qui crachent du sang...
Mais non, mais ça ressemble à du sang, c'était pas du sang. C'est pas possible que ce soit du sang.
Déjà qu'il y a quasi plus de poison dans cette rivière.
Je voulais te les montrer, mais il y a Mehdi qui est arrivé, elles sont parties. Tu sais ce que je pense?
Non, je sais pas ce que tu penses.
Tu le gardes pour toi, hein?
Oui.
Je pense que les truites mutent.
T'es sûr que c'est pas toi qui es en train de muter, là?
Mais la mutation, Camille, c'est un concept scientifique assez commun, tu devrais connaître. Regarde, attends, écoute, regarde. Si les poissons, ils avalent des extraits de minerais ou les saloperies de produits dont ils servent pour extraire ou laver les roches, ou alors les produits qu'ils déversent dans la rivière modifient les éléments bio-organiques, les poissons les bouffent, génotoxicité, elle mute. T'en dis quoi de ça?
J'en dis qu'ils ont fait toute une campagne pour dire que c'était pas polluant.
Mais tu fais confiance à cette campagne, toi?
Et toi, tu fais confiance à ton dealer?
Très beau rôle et très beau film, effectivement. Léo dans Fario de Lucie Prost. Et puis, vous pouvez être un peu clown aussi dans ce film parce que, par exemple, il a des problèmes d'érection. Et ça nous fait marrer, nous, ouais. Ces scènes-là.
C'est le seul truc qu'il a retenu dans ce truc. Je suis sûr qu'il y a 4 blagues. C'est sur ta
non, tête, mais je vous jure que vous n'êtes pas le seul. Il y a beaucoup de gens, à chaque fois qu'ils voient, bah, décidément, alors ça va mieux depuis. Je sais pas pourquoi ce truc marque. Donc bravo, Lucie, t'as bien fait ton scénar.
Non, mais c'est vrai qu'il y avait aussi un côté clown blanc par moment.
Oui, non, mais de toute façon, il y a, ce truc est bien amené parce que ce qui est drôle dans ce film, c'est que le problème principal de mon personnage, en fait, c'est qu'il n'arrive pas à bander. À la base, c'est ça.
Oui.
Et donc, ça parle du déni, du utile. Il essaie de creuser, de savoir pourquoi ça va pas. Et ça se présente comme ça, quoi.
Est-ce qu'on vous propose des rôles, Pierre Lotin, suffisamment différents, éclectiques? Parce que je vous ai déjà entendu dire, je reçois des propositions où le personnage porte toujours le même blouson de cuir, et en ce moment, je rêve d'enfiler une robe d'avocat, par exemple. Est-ce que vous vous sentez un petit peu le copain un peu voyou? C'est le cas dans l'affaire Bojanski, vous êtes un Polonais qui, lui, n'a pas...
Bojarski.
Comment vous dites?
Nasz kolega zaczyna się niszczyć pojawić.
C'est bien. Comment vous avez fait pour avoir cet accent?
J'ai bossé.
Mais je reviens à ma question, Pierre Lotin, pardon de vous couper. Est-ce que vous avez peur justement d'être catalogué?
Non.
Le voyou, le gars en blouse blanche, le militaire?
Non, parce que si j'avais peur de... J'ai eu ça des laitues, si j'avais pas de me faire cataloguer. Et puis j'aurais gardé ce truc-là parce que j'aurais agi en fonction de ça, quoi.
Laitues, c'est votre côté Jim Carrey et Jerry Lewis, là.
Ouais, c'est des maîtres, hein.
Ouais, mais vous en inspirez.
Ouais.
Comment elle est votre voix dans Laitues?
Elle est comme ça.
Ouais.
Mais...
Et surtout, vous avez un débit de mitraillette.
Je suis désolé, je me permets. Hein. Mais moi, je trouve que la culbute, elle a été faite, justement, Pierre, il aurait pu rester enfermé là-dedans.
Dans du comique, oui.
C'est marrant que vous posiez cette question comme ça. Vous n'avez pas peur de porter trop de blousons en cuir. Je trouve que là où il a été fort, et ça a été de sortir à merveille de ça, même si son rôle, il est divin. Moi, Pierre, quand je l'ai rencontré, il me faisait mourir de rire. Avec son autorisation, je vais vous parler d'une série qu'il avait faite à l'époque de ce court-métrage, qu'il avait déjà réalisé lui-même, qui doit être dans les méandres de Dailymotion, qui s'appelait Monsieur Bête.
Ah, Monsieur Bête.
Monsieur Bête.
C'était quoi?
Exceptionnel. Bah, c'était lui, genre, il avait fait ça avec sa bande de potes de l'époque. C'était lui dans 1000 situations différentes. Il avait créé un personnage qui s'appelait Monsieur Bête. Je vous laisse chercher ça, mais...
Et donc, il était plein de personnages?
Bah non, il était un personnage qui s'appelle Monsieur Bête.
Dans plein de
situations. C'était plein de situations avec des montages plus ou moins foireux. Moi, j'étais mort de rire, je montrais ça à tout le monde. Et une fois, Pierre, il m'a dit ça, c'est un truc à regarder bourré. Non, c'est étonnant qu'il a réussi à faire autre chose que Monsieur Bête.
Comment vous avez réussi à... Est-ce que c'est parce que...
C'est pour le fragile de tout à l'heure.
Est-ce que c'est parce que François Ozon a eu l'intelligence de vous demander d'être une des victimes, entre guillemets, Grâce à Dieu?
Ah, non, ça je pense que c'est la voie des courts-métrages un peu, quoi. J'avais fait beaucoup de cours. Et
pas forcément des comédies.
Non, que du drame. Et je pense qu'au bout d'un moment, j'ai dû me faire remarquer par le biais des courts-métrages. Et puis après, Ozon a dû voir, quoi. Mais c'est vraiment les courts-métrages. C'est pour ça que les jeunes comédiens, je leur conseille de faire du court-métrage.
Oui, non, mais c'est intéressant. Ce que disait aussi tout à l'heure Fingan, qui a réalisé un court-métrage.
Oui, j'ai réalisé mon premier court-métrage. J'ai adoré. Mais là, je vous le dis honnêtement, un des trucs dont je suis le plus heureux ces derniers temps, c'est Mort d'un acteur, dont je vous parle avec Philippe Rebaud, que vous trouverez sur France Télé. Oui. Si vous cherchez, pour le coup, c'est de la comédie, c'est un court-métrage, c'est efficace et ça fait plaisir.
On s'écoute un petit extrait de Grâce à Dieu, la scène de Pierre Lottin, quand Melville Poupeau vous dit « Allez, viens avec nous, nous les victimes du père Prénat, signe avec nous, on va gagner. » On écoute.
Vous avez fait votre catéchisme avec lui ?
Ouais.
Et l'enfant de cœur ?
De temps en temps, ouais. Mais pas tous les dimanches.
Ça se passait où ?
Dans la sacristie, mais parfois il m'appelait pour que je monte dans la cure.
Il vous faisait quoi ?
Non, j'ai pas envie de parler de ça.
Je comprends. Vous savez, si vous acceptez de témoigner et de porter plainte contre lui, Prénat pourra être attaqué par la justice. Et vous le feriez pour toutes les victimes prescrites. Et je pense qu'on est nombreux. Votre tante m'a parlé de votre frère, Mathieu, qui se serait suicidé à cause de Prénat.
Mathieu, il s'est suicidé parce qu'il était pédé.
Mais non, mais même s'il était homosexuel, les agressions de Prénat étaient criminelles, c'était un enfant. Il faut rompre la chaîne du silence, Didier. Faites-le pour Mathieu.
En fait, moi, je trouve ça facile de parler pour vous, quoi. Vous avez une famille, vous avez du fric, vous avez du boulot, vous avez tout, en fait. Moi, j'ai quoi ? J'ai que dalle. J'ai pas d'avenir, moi, en fait.
D'accord, moi, je m'en suis sorti, n'empêche que je reviens de loin aussi.
Et si je le fais, il y a marqué quoi sur ma gueule ? Toute ma vie, il y a marqué victime de pédophile.
Mais non, si vous parlez, d'autres parleront. Vous serez pas tout seul.
Je sais pas.
C'était pas rien de tourner Grâce à Dieu à ce moment-là, hein, de l'actualité Pierre Lottin.
Je sais pas.
Ça vous est difficile d'en parler ?
De quoi ?
De ce rôle. Je dis que c'était quelque chose, que vous étiez tous hyper investis.
Bah, c'est un sujet quand même tendancieux.
Assez costaud.
Ouais, c'est quand même assez balèze, quoi.
Mais parce ça doit être passionnant, justement, de jouer des rôles qui sont en phase avec la société, parce que vit la société au même moment.
Ouais. Et le film, ça s'appelle Grâce à Dieu, parce que il y avait, je sais plus lequel, mais il y avait un abbé qui a dit, grâce à Dieu, il s'est pas fait capter, en gros.
Oui, le pédophile.
Il y a un journaliste qui fait, vous vous rendez compte que vous dites, heureusement qu'il s'est pas fait capter.
Mais est-ce que ça se joue différemment ? Est-ce que ça se prépare un rôle aussi puissant différemment ?
Non, c'est sur le moment. C'est déjà, on bosse bien son texte. Voilà, on n'arrive pas vers sur le tournage. On va dans son scénario. On fait confiance aussi au réal.
Qu'est-ce qui se passe de si bien avec François Ozon ? Vous avez travaillé déjà 3 fois ensemble. C'est une vraie fidélité. Ouais. Comme avec les Tuches, vous êtes aussi fidèle.
C'est marrant.
Il est marrant ?
J'aime bien, moi.
Parce que vous venez d'univers différent.
Ouais. Mais non, c'est que c'est...
Il n'a pas le même parcours que vous.
Non, mais c'est qu'il est honnête, quoi. Il dit ce qu'il pense, hein.
Donc quand vous n'êtes pas bon, il dit, là, Lottin, t'es à 50%.
Non. La dernière fois, il me dit quoi ? Il me dit, fais un truc avec tes mains, comme ça et tout. Je fais, ok. Je fais un truc avec mes mains. Il fait, mais non, mais on dirait un bonobo. Je fais, tu viens de dire quoi ? Il fait, mais non, mais c'était vachement bien avant. J'ai fait, fais pas des comparaisons avec des bonobos, tu sais, un acteur, c'est susceptible. Non, moi, j'aime beaucoup Ozon. C'est un des rares réalisateurs qui a dit bonjour à ma femme quand on s'est présenté. Voilà.
Les autres l'ont pas regardé ?
Pas trop, non.
C'est comme ça dans le cinéma ?
Je sais pas. Mais en tout cas, c'est le seul qui lui a dit bonjour, quasiment. Ouais.
Je comprends que ce soit important pour vous.
Ouais, et c'est un gars qui est comme ça. Il peut être dur à des moments et tellement tendre à d'autres. Je mets une espèce d'ambiguïté.
Non, pas du tout.
Je kiffe bosser avec lui parce que c'est fluide, en fait. Et qu'en fait, c'est pas un gars qui va dire, il faut que tu changes le texte, je sais pas quoi. Non, c'est qu'il est sur une ligne qui est plus haute que ça. C'est-à-dire que son œil, il va pas aller voir la ponctuation, le mot de je sais pas quoi, là. C'est en termes d'énergie, en fait. Et il sait quelle énergie insuffler. C'est un mec qui bosse énormément, qui a pensé son sujet. Et donc, du coup, c'est plus, il va mettre un état d'esprit. Et c'est ça qui est bien chez les réalisateurs, c'est quand ils arrivent à créer un petit monde et puis après ils nous jettent dedans et puis après comme il a bien choisi, je pense que ces comédiens généralement on sait comment nager, quoi.
Donc c'est quelqu'un avec qui on apprend encore.
Bon, c'est quelqu'un avec qui j'aime beaucoup bosser, quoi.
Je vais vous demander dans un instant et même tout de suite des conseils culturels pour la semaine à venir.
Oh là là.
Le Grand Atelier, Vincent Josse sur France Inter.
On m'a dit que vous vouliez parler d'un bouquin ou peut-être même d'un documentaire, Pierre Lotin.
Ah putain, oui. Ça.
Alors c'est quoi ce documentaire ?
Darkwater.
Darkwater ?
Ouais.
Alors ?
Un excellent réalisateur qui s'appelle Todd Haynes, avec Mark Ruffalo qui est sur un avocat, j'ai oublié son nom, s'appelle Bill, je sais plus. Mais en fait, c'était sur la crise du téflon. Et quand j'ai vu le film, je savais pas moi que le téflon c'était vraiment un matériau de merde et que c'était un imperméabilisant pour tank. Sauf qu'à la fin de la guerre, il y avait trop de K9, je sais pas quoi, donc ils ont mis dans les poêles. Et le problème, c'est qu'il y a une entreprise qui s'appelle Dupont qui est déversée en fait dans la rivière, et ça fait qu'il y avait plein de gens dans la ville qui étaient pas loin, qui ont eu des cancers ou qui ont eu des. Et en gros, je me suis posé la question, c'est les gens savent qu'il faut pas bouffer du téflon, sauf qu'on continue. Donc est-ce que le cinéma fait bouger, enfin comme je disais tout à l'heure, fait un peu bouger les lignes. Mais en fait, comme je viens de répondre tout à l'heure en disant oui, tant qu'on a envie d'en parler, ça va. Ce jour, on n'aura plus le droit que ça va être la merde.
Vous l'avez vu ce film, Finnegan ?
Non, ça me dit quelque chose Darkwater, mais je pensais que c'était un truc sur les requins.
Ouais, il y a un autre truc. Il y a un autre film qui s'appelle...
Qui est vachement mieux d'ailleurs.
Vous auriez conseillé ça.
Ouais, c'est ça. C'est ma recommandation justement.
Non, c'est pas vrai, on m'a dit que vous aviez envie de parler de La Conjuration des imbéciles de John Kennedy Toole.
Oui, absolument. C'est un livre que j'ai lu il y a 10 ans et que j'aimerais bien relire parce que je lis pas assez en ce moment. Donc je me dis que si je recommence à lire un livre que j'ai déjà lu, ça sera peut-être plus facile pour moi. Non, je savais, c'est un peu catastrophique. Et
donnez-nous envie de le lire.
Alors, La Conjuration des imbéciles, c'est l'histoire d'un... Je crois que c'est un gars qui a 30 ans, qui vit chez sa mère, qui veut devenir écrivain et qui n'y arrive pas. Et c'est l'histoire de l'auteur qui n'a pas été publié de son vivant, qui s'est suicidé à l'âge de 30 ans. Sa mère a essayé de faire publier son livre, ça c'est la vraie histoire. Hein. Elle a essayé de faire publier le livre de John Kennedy Toole. Personne n'en voulait. Et en fait, quand vous lisez La Conjuration des imbéciles, il y a une note de l'éditeur qui dit... Vous imaginez pas ma gêne quand j'ai vu une mère qui avait perdu son fils, qui mettait tous ses espoirs dans une espèce de manuscrit gribouillé à la main. C'était très difficile pour moi, je m'attendais au pire, et en fait c'est génial. Et il a eu le prix, et finalement ce livre est un chef-d'œuvre. Il a eu le prix Pulitzer post-mortem. Et il y a une noirceur, ce livre est sorti de je ne sais pas d'où, et c'est vraiment divin, je le recommande.
Putain, il m'a donné envie de le lire.
Ouais, vous avez le temps?
Hein?
De lire sur un tournage.
Non.
C'est Jean-Louis Trintignant qui disait « Qu'est-ce que je me suis ennuyé au cinéma à attendre ma scène ?»
Mais il n'avait pas de téléphone, Jean-Louis Trintignant, si ?
Non. Il a une bonne chaise.
Il avait une bonne chaise. Peut-être qu'il lisait, d'ailleurs. Parce que...
Il disait, un bon comédien, c'est un mec qui a compris qu'il fallait avoir une bonne chaise.
Ouais, mais c'est pas con.
Vous êtes dans l'affaire Bojarski à partir de mercredi. Vous serez... L'année 2026 sera celle de Pierre Lotin. Est-ce qu'un jour, on verra Pierre Lotin dans un Shakespeare, par exemple ?
Je sais pas, s'il veut de moi.
Il faut aller au théâtre.
Ouais, je sais pas où il est.
Vous aviez peur ?
Non, c'est que... Je suis pas encore la clé de la porte, quoi.
Vous avez...
Pour l'instant, là, je suis dans le cinéma.
Mais ça peut durer longtemps.
Ouais, mais j'ai envie de faire de la réal un peu. Et de la musique, et des D'accord. jeux vidéo.
Donc c'est ça vos priorités pour l'instant.
Sur la lune.
Ouais. Finnegan, le théâtre ?
J'aimerais bien, mais pareil, je n'ai pas la clé encore tout de suite et je suis content au cinéma de ce qui se passe en ce moment et des projets à venir, donc je vais rester là. Mais oui, j'adorerais faire du théâtre, vraiment.
Finnegan Oldfield, merci.
Merci à vous.
Et Pierre Lotin, bonne suite.
Merci à vous.
Et bonne année. Stéphane Combe a réalisé cette émission préparée avec Marion Guilbeault, programmation musicale Valentine Chédebois, à la technique Maxime Boudard.